Et donc, je vous propose de passer aux questions écrites, avec d'abord les questions qui sont posées par Madame Gendreau. Je vous en prie.
Nous avons eu en début de conseil à propos des sociétés Kitis, je propose de faire l'impasse sur cette première question que je vous avais adressée avant même de, bien sûr, avant que nous ayons l'ordre du jour du conseil municipal. Effectivement, vous savez que nous devons envoyer nos questions avant d'avoir connaissance de l'ordre du jour du conseil municipal. Donc je vous propose de ne pas donner lecture de cette question concernant les bons d'achat Kitis qui ont déjà fait l'objet d'un débat tout à l'heure. Je vais donc passer à la seconde question. Je rappelle qu'en premier lieu, en juin dernier, vous nous avez proposé d'adopter la mise en œuvre d'un plan climat communal. Ce plan climat, selon veut dire, s'inscrivait dans une démarche volontaire et affirmée de notre ville dans les domaines de compétences qui lui sont propres. Ce document listait ainsi 83 actions à mettre en œuvre, mais force est de constater que presque toutes les mesures structurantes sont de la compétence de l'Eurométropole. Plan climat, aires urbaines, déplacements, schéma de développement des pistes cyclables, stationnement sécurisé aménagé, réseau de transport en commun, mise en place des bornes de recharge pour véhicules électriques, modification éventuelle du PLUI, etc. Dans votre bilan à mi-mandat, vous rappelez la charte verte pour notre ville qui sollicite surtout des engagements de la part des particuliers, des associations et des entreprises. Rappelons enfin qu'en mars dernier, vous avez inscrit au budget 2023 un investissement d'1,5 million d'euros afin de moderniser l'éclairage public. Il s'agit d'une des rares mesures qui implique véritablement la ville dans la démarche de transition écologique. Nous sommes aujourd'hui en décembre 2023, donc à un mois de la fin de l'exercice budgétaire. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes dans la concrétisation de ce chantier et de l'engagement de cet investissement ? Quelle est la part de l'éclairage public qui a basculé en LED depuis le début de l'année 2023 ? Je vous remercie. Combien des 1 500 000 euros votés au budget 2023 la ville a-t-elle réellement investi depuis le début de l'année dans ce renouvellement et cette modernisation de l'éclairage public ? Dans combien de temps, conformément à vos engagements dans votre bilan à mi-mandat, qui précise bientôt, ce chantier sera-t-il réalisé à 100 %? Je vous remercie, Monsieur le maire, pour votre réponse.
Merci, Madame Gendreau. Alors, effectivement, vous avez vu dans les notifications de marché public qui sont joints dans le point qui les concerne qu'on a attribué le 8 novembre 2023 un marché pour un montant d'un million 474 753 euros hors taxes à la société Sobeka SAS pour la rénovation du parc d'éclairage public de la ville en source LED. Et donc, en fait, ça fait réponse à votre question, puisque l'attribution de ce marché permet la réalisation de ce chantier, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un certain nombre d'étapes qui ont été réalisées cette année. On a embauché un spécialiste du sujet dans nos services qui a mené une étude pour voir l'état du parc et diagnostiquer l'ensemble de l'état du parc et le référencer, puisque nous ne disposions pas forcément d'un inventaire précis des différentes typologies de lampadaires et de sources lumineuses qu'on avait sur le banc communal. Donc M. Legrand est arrivé au mois d'avril, et donc au mois d'avril, il a tout de suite commencé à faire le diagnostic. Il a mis le diagnostic sur papier. Le marché public a été rédigé et donc ça a permis ensuite de passer le marché public, puisque le temps que les différents prestataires puissent répondre, il y a eu ce délai. Ensuite, la commission d'appel d'offres qui s'est tenue, qui a donné le marché au groupement mené par Sobeka, mais qui est en groupement avec SPI, donc ce sont deux acteurs qui sont assez connus sur la place. Et donc ensuite, on a eu un recours contentieux d'un des candidats qui n'avait pas été retenu et qui jugeait l'attribution pas forcément conforme à ce qu'il aurait souhaité. Et donc on a eu un jugement du tribunal administratif qui nous a donné raison avec une prise en charge de nos frais de justice. Et donc ça nous a permis d'aller concrètement maintenant avec la société qui a remporté le marché public sur l'établissement d'un calendrier à la fois de commande des différentes pièces. Donc les pièces sont en ce moment en commande, conformément au diagnostic qui avait été réalisé. Et donc un début du chantier qui va se faire au mois de janvier et qui s'étalera vraisemblablement sur quelques mois, le tout étant prévu complètement terminé pour les chantiers les plus importants sur le mois de juin-juillet, puisqu'il y aura quand même un certain nombre d'endroits où ça nécessitera des remplacements complets de candélabres. Je pense par exemple à la rue des Bonnes-Gens où c'est des sources lumineuses assez anciennes. Je pense par exemple à la rue de la Ceinture où il y a encore quelques mâts anciens. Enfin voilà, donc il y aura tout un travail qui sera peut-être un peu plus important et un peu plus long sur des remplacements complets avec des renouvellements de réseau parfois et de travail sur les armoires. Mais l'essentiel sera fait dans les premiers mois de l'année pour ce qui concerne les remplacements de sources lumineuses. Et donc il y aura immédiatement une mise en œuvre de l'abaissement de 80% entre 21h et 6h du matin conformément à nos engagements. Et donc pour être tout à fait précis, cette année il y a eu le remplacement des sources LED à l'allée François Mitterrand et sur le parking de l'Iliade par des sources LED qui sont pilotables, et le remplacement complet des candélabres sur le quai de Lille qui était dans un état assez délabré puisque c'était des boules avec des mâts qui n'étaient plus tout à fait conformes. Donc voilà pour ce qui a été fait cette année sur le budget habituel, mais on ne souhaitait pas engager forcément d'autres chantiers plus importants alors qu'on allait passer un marché public, et qu'on signera le 13 décembre avec la Banque des Territoires le prêt d'Intracting pour pouvoir aussi prendre en charge cette dépense avec un taux bonifié de 2%. Et je pense pouvoir dire, sans me tromper, qu'on sera dans les rares collectivités à avoir bénéficié d'un taux aussi intéressant pour ce type de montage, puisque je ne suis pas certain que la Banque des Territoires propose le même taux par la suite. Donc voilà pour la réponse complète sur ce sujet.
Voilà, donc j'en viens à ma dernière question. Lors du conseil municipal 2023-21 a été approuvée la création par le vote d'une délibération d'une réserve communale de sécurité civile que vous aviez proposée. Fondée sur le principe du bénévolat, cette réserve est placée sous l'autorité du maire. Elle est composée de personnes majeures, volontaires et bénévoles qui s'investissent au service de la commune et s'engagent par contrat pour une période de 1 à 5 ans renouvelable. Cette réserve communale de sécurité civile doit apporter son concours lors d'une crise importante survenant sur le territoire de la commune. Elle contribue à mettre en sécurité la population en cas de risque d'inondation ou de sécheresse, risque chimique et sanitaire et tout risque identifié dans le plan communal de sauvegarde de la ville. Elle participe à l'information de la population, à la reconnaissance et à l'évaluation des besoins de la population dans la commune, au soutien et à l'assistance des populations comme l'accueil des sinistrés dans un centre de regroupement, l'aide aux sinistrés dans leur démarche administrative, la collecte et distribution de dons au profit des sinistrés, ainsi qu'à la logistique et l'aide au nettoyage et remise en état des habitations. Au vu des événements climatiques récents qui ont frappé notre pays, et je pense particulièrement aux graves inondations dans le nord de la France, nous pouvons mesurer l'intérêt d'avoir dans notre ville cette réserve communale de sécurité civile pour venir en aide aux populations durement éprouvées dans de telles circonstances. Le conseil municipal ayant voté la création de cette réserve communale en septembre 2021, il y a donc plus de 2 ans, je souhaite que vous nous informiez, le conseil municipal ainsi que les Îles-Kirchois, sur sa constitution et ses missions. Depuis quand cette réserve communale est-elle constituée et prête à intervenir en cas de besoin? Combien de personnes sont membres à ce jour de la réserve? Y a-t-il une répartition satisfaisante des volontaires sur l'ensemble des quartiers de notre ville? Quelles formations ont été proposées aux volontaires afin de les préparer à cette mission? Quelles actions d'information et de préparation préventive auprès de la population ont été réalisées et sous quelle forme? La délibération précisait qu'un arrêté municipal en préciserait les missions et l'organisation. Pouvez-vous nous communiquer cet arrêté municipal et nous présenter les missions et l'organisation que vous avez mise en place depuis septembre 2021. Je vous remercie pour toutes les informations que vous pourrez nous donner.
Merci Madame Gendreau pour cette question. Alors effectivement, on avait projeté la création de cette réserve de sécurité civile, et finalement depuis, on a quand même eu un certain nombre de crises à gérer, notamment la crise Covid avec l'organisation du centre de vaccination et différentes problématiques qui étaient diverses et variées, hein, d'ailleurs, qui sont régulières, par exemple des incendies qui peuvent impliquer des habitants de notre commune et qui nécessitent des relogements ou des mises en place de procédures spécifiques. Et donc, en fait, à ce moment-là, on a systématiquement fait appel à des acteurs du territoire, puisqu'en fait, aujourd'hui, la chance qu'on a sur Ilkirch Grafenstaden, c'est qu'on a un certain nombre de structures qui sont bien dotées. Et donc, pour le centre de vaccination, on avait fait appel à la Croix-Rouge, qui avait quand même tenu pendant plusieurs mois durant le centre de vaccination, qui assure un certain nombre de postes de secours régulièrement, qui assure un suivi et une aide logistique. Encore aujourd'hui, quand on a eu le repas des aînés, ils étaient là à la fois pour le poste de secours, mais aussi pour nous aider sur la logistique et l'organisation. Et donc, on a la chance d'avoir ces structures, la structure aujourd'hui des pompiers volontaires, puisqu'on fait partie des rares exceptions qui existent localement, c'est-à-dire qu'on a deux casernes sur la commune, ce qui est un fait tout à fait particulier et inédit, puisqu'on a une caserne qui est composée, la caserne sud, qui est une caserne professionnelle, composée de professionnels mais aussi de volontaires, et la caserne qui est au centre-ville, qui est composée de volontaires exclusivement, qui interviennent très régulièrement. Et donc on a fait appel régulièrement aussi à ces pompiers pour différentes opérations. Et puis vous savez que l'Eurométropole de Strasbourg, qui est compétente maintenant en matière de gestion des risques, a mis en place un contrat avec la protection civile qui assure des prestations qui sont mobilisables par un numéro d'astreinte que nous possédons avec le directeur général des services et nos différents élus qui sont en charge de ces problématiques-là, qu'on peut mobiliser, qui peuvent mobiliser du matériel depuis leur entrepôt qui est tout proche à la plaine des Bouchers. Et nous avons d'ailleurs du matériel qui est entreposé à la mairie avec la Croix-Rouge, et donc nous avons aussi avec la Croix-Rouge du matériel qui est à disposition, et donc on est en capacité assez rapidement sur par exemple le gymnase Lixembul de mettre en place de l'hébergement d'urgence si jamais il devait avoir une grave crise. Et on a pu refaire et rebalayer le plan communal de sauvegarde à l'occasion des différentes crises. On a par exemple refait un point complet sur la gestion, par exemple, d'une catastrophe nucléaire qui impliquerait la distribution de pastilles d'iode. Et donc, on a un stock stratégique qui est situé sur la commune et qu'on sait pouvoir mobiliser. Et donc, en fait, c'est vrai que le constat aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de structures et beaucoup de structures qui sont aujourd'hui régulièrement mobilisées, qui sont des structures qui permettent d'encadrer des volontaires, que ce soit les pompiers, la Croix-Rouge, mais aussi les cadets de la prévention, Action Prévention Alsace, auxquels on fait régulièrement appel. Et donc on a préféré ces derniers temps renforcer ces structures-là qui sont en capacité de pouvoir faire des formations qui sont reconnues, les faire régulièrement, plutôt que de se substituer d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément plus pousser le sujet ensuite, puisqu'on avait des demandes de ces différentes structures pour pouvoir assurer ces missions-là. Et d'ailleurs, on les subventionne et on les accompagne de manière très importante. Et on va d'ailleurs signer dans pas longtemps une convention beaucoup plus importante avec la Croix-Rouge et l'unité locale d'Ilkirch sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions conformément au plan communal de sauvegarde qu'on voudrait remettre à jour, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de risques qui ont évolué depuis. Et donc voilà pour la réponse sur la réserve communale. Mais c'est vrai qu'on a cette force aujourd'hui à Ilkirch Grafenstaden de pouvoir disposer quand même de différentes structures. Et donc je pense qu'en matière de risque, on serait en capacité de mobiliser un certain nombre quand même de membres de ces structures qui sont pour la plupart souvent résidents à Ilkirch Grafenstaden, ce qui facilite quand même l'intervention. Et je pense notamment aux pompiers volontaires qui doivent être quand même à très grande proximité de la caserne pour que leur trajet vers la caserne ait du sens par rapport au délai d'intervention final. Et donc on arrive alors sur l'interpellation qui est porté par le groupe Cultivons Ma Nature. C'est qui Ah oui. Non, je... Mais comme c'était Emmanuel Barman qui nous l'avait... Ah oui, Cultivons Ma Nature. Vous voyez, c'est là. Ouais, au moins, ça fait une petite boutade. Mais je vous ai senti plus proche ce soir, donc c'est peut-être... Du coup, qui porte l'interpellation?
Je je vais porter l'interpellation de mon collègue Emmanuel Barman. Monsieur le maire, par courrier du 2 mars 2022, Monsieur Frelin nous avait interpellé concernant le manquement aux règles relatives aux publications municipales suite à la diffusion d'un bulletin de 24 pages intitulé « Bilan sur la période 2020-2021 » et entièrement financé par la commune. Il vous a signifié que l'article L2121-27-1 du Code des collectivités territoriales et la jurisprudence dont vous avez reconnu la constance assimilaient cette publication à un multimunicipal et qu'à ce titre de publication devait comporter un espace d'expression pour les groupes d'opposition. Lors du conseil municipal du 7 avril 2022, Madame Gendreau vous a également interpellé concernant ce bulletin. En réponse à cette interpellation, vous aviez fait amende honorable et aviez, je vous cite, reconnu qu'il y avait un manquement que vous reconnaissez volontiers, demandé à votre directeur de cabinet qu'il n'y ait plus de manquement, demandé que soit mis en place un suivi fin, sans précision sur ce que vous entendiez par là, précisé que votre chef de cabinet veillerait à l'application stricte de ces règles. Vous aviez conclu en prenant l'engagement que dans les prochaines publications, le respect des règles serait assuré en prévoyant un espace pour l'expression des groupes d'opposition. Vous avez à nouveau publié un bulletin daté d'octobre 2023 et présenté comme un supplément d'infographe intitulé « Bilan mi-mandat 2020-2023 » dans lequel on retrouve un édito spécifique démontrant bien le caractère indépendant de cette publication. Force est de constater que les engagements que vous aviez pris devant les membres du conseil municipal n'ont pas été respectés, puisque cette publication ne laisse pas la place à l'expression des groupes minoritaires. Ou bien plutôt ont-ils été détournés, puisque vous allez probablement nous expliquer que s'agissant d'un supplément, les règles de l'article 2121-27-1 ne s'appliquent pas, ce que nous contestons. À ce titre, nous avons lu avec intérêt et non sans un certain étonnement la page qui était consacrée à la démarche personnelle de Madame Barbara Rimlinger sur les chemins de Compostelle dans l'infographe du mois de septembre. Intérêt parce que la démarche est assez remarquable et étonnement parce que nous n'imaginions pas que ce type d'initiative puisse être mise en avant dans le bulletin municipal. Comme vous le savez peut-être, la presse ayant relayé son initiative, Emmanuel Barman a relié Ilkirch-Grafenstaden à Nantes à vélo dans le cadre de Au boulot à vélo. Il a réalisé les quelques 900 km qui relayent les deux communes en 6 jours sur son vélo du quotidien, ce qui n'est pas commun. L'objectif de cette traversée était de sensibiliser à l'utilisation du vélo dans les trajets domicile-travail. Une partie du travail de M. Barman se déroule en effet à Nantes. Alors la suite. Cette initiative avait pour objectif de collecter des fonds pour des associations de défense de l'environnement et de la qualité de l'air par le biais de ce défi et M. Barman y est parvenu. 4 500 € ont ainsi été distribués aux deux associations retenues. Monsieur Barman vous a fait part, ainsi qu'à votre cabinet, de son initiative par mail à 2 reprises sans aucune réponse de votre part. Dans un esprit d'équité de traitement qui vous aurait honoré, il aurait été de bon aloi d'offrir à l'initiative de Monsieur Barman le même traitement que celui qui a été accordé à celui de Madame Rimlinger. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Froli. Alors, c'est vrai que j'ai été surpris en lisant quand même cette interpellation parce que alors, il y avait une partie où on pouvait avoir une interprétation différente du Code général des collectivités territoriales et puis il y avait une partie un peu plus surprenante où on faisait état d'une aventure personnelle, alors certes louable de M. Barman, mais c'est vrai que je n'avais pas eu encore affaire à des interpellations qui demandaient la publication de certains faits de vie dans l'infographe, ce qui est tout à fait sympathique au demeurant. Mais je rappelle quand même que le choix des articles d'infographe sont faits sous la direction d'un comité de rédaction qui se réunit une fois par mois. C'est un gros travail qui réunit un certain nombre d'élus qui sont ici autour de la table, de citoyens aussi d'Ilkirch qui avaient proposé leur, leur collaboration sur le sujet et qui viennent et qui sont tout à fait assidus d'ailleurs, hein, qui souvent portent aussi des propositions de certains articles, je pense notamment sur les portraits d'expatriés ou de ce type-là, souvent c'est par des connaissances de personnes, enfin voilà, donc ça se passe comme ça, et donc l'infographe est réalisé selon une ligne éditoriale. Mais c'est vrai que je dois dire que quand j'étais conseiller dans l'opposition, on ne m'a jamais proposé ou j'ai jamais eu la chance de pouvoir mettre mes faits d'armes dans un article d'infographe. Alors je pouvais le faire dans des tribunes, mais finalement là c'était une forme de tribune puisque vous avez pu vous exprimer au conseil municipal. Et donc dans le PV du conseil municipal, on aura l'occasion de pouvoir lire les aventures de Monsieur Barman. Mais la presse s'en est fait l'écho, donc tant mieux, au moins Monsieur Barman aura eu son article. Et donc après, en s'agissant du bilan, c'est un supplément et on a une interprétation différente du Code général des collectivités territoriales, dont acte. La deuxième, du coup, interpellation, c'est Madame Longchal.
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc c'est une interpellation qui concerne la concertation autour du projet de réaménagement du Forum de Lille. Le projet de transformation du Forum de Lille nous est annoncé depuis 3 ans. Du marché couvert au miroir d'eau, puis à la forêt urbaine, vous avez voulu nous faire rêver. Mais aujourd'hui, ce qui est proposé comme choix aux citoyens relève du jeu des 7 différences, tant les projets sont proches et présentés de manière succincte sur la plateforme Ilkirchois. On nous parle de 3 scénarios, de fait, il n'y en a qu'un. Avec de subtiles nuances, et même si vous avez indiqué qu'il restait possible de faire des propositions, elles ne peuvent concerner que des détails. Avec un démarrage des travaux annoncés pour février, comment imaginer une vraie concertation? Et pourtant, nombreux sont les Ilkirchois qui auraient aimé rêver avec vous en participant à la co-construction d'un projet répondant réellement aux attentes forcément diverses qui auraient pu s'exprimer puisqu'il s'agit de la place centrale de notre ville. Planter des arbres et redonner de la place à la nature dans la ville, c'est évidemment une absolue nécessité. Nous en sommes pleinement d'accord. Mais disposer d'un lieu de convivialité en centre-ville pouvant accueillir des manifestations, des rencontres est également essentiel. Or, l'espace actuellement disponible est restreint. Et la réflexion sur la relocalisation des événements ayant lieu actuellement sur le forum ne paraît pas très aboutie. Une vraie concertation citoyenne aurait été tellement utile en amont pour que cet espace du forum puisse répondre au mieux aux attentes des Ilkirchois. En tant qu'élus, nous aurions aussi aimé pouvoir discuter du projet en commission développement durable, environnement et urbanisme. C'était bien le lieu pour le faire. Mais ce point n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de la commission. Et ce n'était pas un oubli, mais une volonté délibérée de votre part, comme nous l'a indiqué le président de la commission, qui a même refusé que nous en discutions lors de la commission qui a suivi la présentation publique. Quand nous entendons Monsieur le maire nous parler de son grand projet environnemental, nous restons évidemment sur notre faim, car l'ambition est là bien modeste. Quand parlerons-nous de la transformation du stade de la Schlossmatt en parc urbain? Quand plantera-t-on plus d'arbres que de lampadaires dans nos rues? Encore une concertation de façade et une opération de greenwashing pour un mandat sans réelle ambition environnementale. Mais encore une fois, chapeau bas pour l'opération de communication. Merci.
Merci Madame Longchal. Bon alors, c'est vrai que la femme a fait sourire, parce que je me suis dit quand même, ben surtout les planter plus de lampadaires que d'arbres. Alors pour être tout à fait honnête, vous savez qu'on n'a pas rajouté de lampadaires depuis qu'on est arrivé dans ce mandat. Parce que pour le coup, pour bien maîtriser quand même le sujet de l'éclairage public, je peux vous dire qu'il y a eu 0 lampadaire supplémentaire, il y a eu des remplacements de lampadaires, mais par contre des arbres, il y en a eu beaucoup de plantés. Puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'arbres qui ont été plantés dans différents espaces, puisque vous avez sûrement vu tout à travers de la ville un certain nombre d'espaces qui étaient avant juste de la prairie ou de l'herbe, qui ont été garnis d'arbustes et d'arbres dans une quantité assez dense. Et donc on est quand même au-delà des 2000 arbres plantés et arbustes plantés sur les espaces depuis le début du mandat, ce qui est pour une ville de notre taille quand même assez intéressant. On a d'ailleurs même élaboré avec l'Eurométropole de Strasbourg un plan qui nous permettrait de pouvoir ajouter des arbres dans des rues qui ne sont pas forcément dotées aujourd'hui, mais qui sont suffisamment larges pour pouvoir accueillir des arbres. Donc ça, c'est un des éléments qu'on a fait. Alors après, si on revient sur l'opération et le projet du forum, moi, je pense quand même que le projet du forum, ça intéresse les personnes, puisque c'est une des concertations qui fonctionne le mieux, puisqu'on a plus de 1000 participants d'ores et déjà. Donc ça montre quand même qu'en peu de temps, il y a eu plus de 1000 participants, alors que l'infographe vient seulement d'être distribué, et donc c'est quand même intéressant. Quand à l'époque, il y avait eu la concertation sur l'extinction nocturne de l'éclairage public, il y avait eu un peu moins de 400 participants. Donc ça montre quand même une vraie différence d'intérêt sur le sujet. Et je pense que c'est intéressant quand même de faire participer la population. Et je me souviens quand même que sur le mandat précédent, il n'y a pas eu beaucoup de concertations qui ont été menées sur les projets qui étaient menés. Je me rappelle par exemple sur le parc Friedel, il n'y a pas eu une grande concertation sur comment on allait faire les aires de jeu du parc Friedel et comment on allait les aménager. En tout cas, je n'y ai pas participé et je ne l'ai pas vu passer. Alors que j'étais quand même plutôt impliqué sur le mandat précédent. Mais ça, peut-être qu'on est passé à côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le projet, je pense qu'il a un vrai intérêt puisqu'il permet de continuer à avoir une place centrale qui est intéressante et qui fait une centralité, puisqu'il y a quand même le kiosque à musique qui est prévu avec un espace qui permettra d'accueillir un certain nombre d'animations et de concerts. Il y a un espace un peu plus ludique qui est projeté, alors avec différents niveaux d'espace ludique. Soit on garde les jets d'eau avec 600 à 800 mètres cubes d'eau qui sont perdus chaque année, soit on passe sur une version un peu plus moderne de l'espace ludique avec des brumisateurs, à la fois pour les enfants et pour les plus grands, puisqu'il y a aussi des brumisateurs un petit peu disséminés qui permettraient de se rafraîchir, ce qui est quand même une des demandes qu'on a eues régulièrement pendant les étés, notamment quand le Conseil des aînés souhaitait pouvoir organiser des sessions de jeux, des animations sur le forum, c'est d'avoir quand même un espace où on puisse s'abriter et on puisse aussi se rafraîchir. Donc ça, c'était quelque chose qui était demandé, donc ça a été intégré au projet. Il y a quand même plus de 150 arbres qui vont être plantés sur le forum, donc c'est quand même pas négligeable et ça fera vraiment un poumon vert au centre d'Ilkirch-Grafenstaden. Et je rappelle qu'on a quand même de la place tout autour du forum, puisqu'on a le parking Quintance, on a le cours de l'Iliade qui est quand même un espace minéralisé qui permet d'accueillir le marché, mais qui permet d'accueillir beaucoup de manifestations, puisque régulièrement, Fête de Lille et autres, c'est quand même le cours de l'Iliade qui est mobilisé avec les jardins de l'Iliade, et que les jardins de l'Iliade aujourd'hui sont aussi un espace qui est disponible et qui est peut-être pas toujours suffisamment exploité par rapport à ce qu'il permettrait de pouvoir faire. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui le marché de Noël qu'on a, la vraie difficulté qu'on a, c'est sur le rond central du marché de Noël, puisqu'avec la gadoue que ça génère à chaque fois qu'il pleut, c'est vrai que c'est vraiment pas l'endroit le plus sympathique. Et puis, c'est quand même pas un endroit qui est accessible entièrement au PMR, puisqu'il faut faire un détour, et que quand on veut rendre des espaces accessibles, on est plutôt dans un paradigme de dire on rend tout accessible et on ne met pas des marches qui sont inaccessibles pour les PMR ou les personnes qui auraient des difficultés à se déplacer. Donc l'idée, c'est aussi de faire une place centrale qui réunisse tout le monde et qui soit un véritable forum, comme on l'entendait d'ailleurs à l'époque. À un moment, ça doit être un lieu de débat, un lieu de démocratie, un lieu où on vit des moments où on se rencontre, où on se retrouve. Et on a prévu la possibilité de pouvoir accueillir aussi une guinguette, d'accueillir de la petite restauration, de la buvette. Enfin voilà, donc ça restera une place centrale. Mais encore une fois, ça fait partie du projet environnemental, qui n'est pas juste du greenwashing, parce que là, il y a du concret. Parce que d'ailleurs, on peut parler des végétalisations, mais quand je vois certaines choses qui sont pratiquées dans des villes à côté où on met des plantes en pot pour végétaliser des places, je pense qu'on peut comparer, et là c'est peut-être un peu plus ambitieux. Et concernant le parc urbain, c'est prévu puisqu'on avait pu faire une réunion publique juste avant l'été sur le réaménagement du quai de Lille, et il y avait même la possibilité de pouvoir faire la végétalisation du quai de Lille et en même temps de faire le parc urbain de la Schlossmatt. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait prévu et qui est dans les tuyaux. Et l'idée est aussi de pouvoir aussi valoriser le terrain qui est sur la rue d'Alsace, le terrain vert de la rue d'Alsace, et de pouvoir aussi peut-être l'agrémenter d'un peu plus de végétation sur un certain nombre d'endroits en gardant un espace ludique, mais pour avoir aussi un lieu où on puisse se rafraîchir. L'idée, c'est quand même d'avoir des espaces verts dans tous les quartiers et d'ouvrir les cours d'école comme on l'a fait depuis quelques temps, toute l'année, pour pouvoir s'y rendre et d'avoir des espaces verts de proximité. Mais en tout cas, ça fait partie d'une politique environnementale qui est ambitieuse. Je sais que je vous aurais bien aimé la réaliser, mais finalement, voilà, c'est nous qui la faisons.